Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 28 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'émissaire spécial de l'ONU, Mahamat Saleh Anadif, veut que l'on aide Peul et Dogon à vivre ensemble après le massacre d'Ogossagou.
En Mauritanie, deux blogueurs ont été écroués pour dénonciations calomnieuses envers le président Mohamed Ould Abdelaziz.
La Côte d'Ivoire va renforcer les droits de la femme, souvent lésée dans la succession en cas de décès de son mari.
Les États-Unis, isolés, défendent au Conseil de sécurité de l'ONU leur décision de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan.
Le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie doit partir du Venezuela.
Boeing dévoile ses modifications sur son 737 MAX pour regagner la confiance.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'émissaire spécial de l'ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, a souligné hier la nécessité d'aider les Peuls et les Dogons à vivre ensemble. Il a lancé cet appel dans une interview à des confrères consacrée à la tuerie du 23 mars qui a coûté la vie à au moins 160 habitants du village Peul d'Ogossagou dans le centre du Mali. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Une enquête de l'ONU est en cours sur ce massacre commis par des chasseurs présumés Dogons. Sans se prononcer sur la responsabilité de la tuerie, l'émissaire de l'ONU et responsable de sa force de casque bleu dans le pays, la MINUSMA, a estimé que l'inacceptable avait été atteint et qu'il fallait l'arrêter. C'est le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme qui a propagé ce virus comme du cancer au sein de ces paisibles citoyens qui ont commencé à s'entretuer, a aussi estimé l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre la communauté Peul et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé des groupes d'autodéfense.
L'ex-premier ministre burkinabé Isaac Zida, qui vit au Canada depuis 2016, a affirmé dans un entretien à France 24 qu'il n'excluait pas d'être candidat à la présidentielle de 2020. Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé de la présidence le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafandou, un diplomate à la retraite qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre dans le gouvernement de transition.
En Mauritanie, Abderrahman Ouloueddadi et Cheikh Ould Djidou, deux blogueurs proches de l'opposition, ont été inculpés hier de dénonciations calomnieuses envers le président Mohamed Ould Abdelaziz. Selon leur avocat, les deux blogueurs ont été écroués pour avoir publié ces derniers mois sur Facebook des informations faisant état du gel présumé d'avoir de 2 milliards de dollars à Dubaï qui appartiendrait au président mauritanien. Ce dernier avait dit le 5 mars qu'il s'agissait, je cite, d'une rumeur qui finira par s'estomper.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté hier 4 projets de loi visant notamment à renforcer les droits de la femme, souvent lésée dans la succession en cas de décès du mari. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole Sidi Kemoko Touré. Conformément au principe de non-discrimination et de l'égalité homme-femme, il y aura le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, avec la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille, a annoncé M. Touré à l'issue du Conseil des ministres. Parmi les innovations introduites, le conjoint survivant bénéficie désormais d'une part non négligeable des biens de son conjoint décédé, a-t-il dit.
Ebola en République démocratique du Congo, une étude publiée aujourd'hui dans la revue The Lancet, estime que les rumeurs et la défiance envers les personnels de santé ont sans doute retardé la lutte contre l'épidémie dans ce pays. Seulement un tiers des quelques 1000 personnes interrogées à Beni et à Butembo ont dit faire confiance aux autorités locales pour les aider pendant l'épidémie. Plus d'un quart ne croit même pas en l'existence d'Ebola et 36% pensent que la maladie a été créée pour déstabiliser le pays. L'épidémie en cours et la deuxième la plus meurtrière, après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014-2016 et qui a fait quelque 11 300 morts.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika continue de perdre le soutien de certains de ses fidèles. L'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia a réclamé la démission du président algérien. Le point avec Abdelrahman Dia.
Cible d'une contestation sans précédent à la suite de sa candidature à un cinquième mandat, le président Bouteflika est toujours en fonction. Il peut refuser de démissionner et le Conseil constitutionnel, dont le président est un autre proche, est le seul à pouvoir enclencher la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution permettant d'écarter le président en cas de maladie grave et durable. Hier, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui a été trois fois premier ministre, a appelé à la démission du président pour, dit-il, faciliter la période de transition. Le patron de la puissante Union nationale des travailleurs algériens, Ahmed Majid Sidi Saïd, a salué l'appel du chef d'état-major de l'armée à écarter le président. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui était un autre soutien indéfectible, a proposé mardi la mise en œuvre de l'article 102 qui organise l'intérim en cas de démission du président. Ces efforts de mise à l'écart du chef de l'État ont eu très peu d'effet sur la contestation. Hier encore, des centaines de chercheurs se sont rassemblés sur le parvis de la Grande Poste, épicentre de la contestation à Alger, pour chanter « Il y en a marre de ce pouvoir et de tout le système ».
Au Maroc, le gouvernement a lancé hier une procédure de révocation pour abandon de poste afin de contraindre les milliers d'enseignants en grève à reprendre le travail. Irénée Herman Umbo.
La procédure est enclenchée et sera irrévocable si les enseignants ne reprennent pas leur poste dans un délai de 60 jours, a déclaré le ministre de l'Éducation Saïd Hamzazi. La procédure d'abandon de poste est lancée, car il s'agit bien d'un abandon de poste caractérisé et non d'une grève, a-t-il lancé, sans préciser le nombre de personnes concernées. Le mouvement concerne 55 000 enseignants recrutés dès 2016 sur la base de contrats à durée déterminée, puis intégrés au sein des académies régionales. Ils réclament le statut de fonctionnaire au sein du ministère de l'Éducation nationale, il gagne 5 000 dirhams par mois, même salaire que les autres enseignants, mais se plaignent de ne pas jouir des mêmes droits, notamment la retraite. Les 55 000 enseignants ont entamé une grève début mars et les différentes propositions formulées par le gouvernement ont été jugées insuffisantes. La procédure vise également des stagiaires qui ont signé un engagement de formation et qui manifestent au même titre que les enseignants titulaires.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'administration Trump va mettre à jour les cartes du gouvernement américain pour refléter, selon porte-parole du Département d'État, la décision du président Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et hier, au Conseil de sécurité, les États-Unis ont défendu cette décision, une position unanimement condamnée par leurs 14 partenaires de l'ONU lors d'une réunion d'urgence à la demande de la Syrie. Le Golan a été conquis en 1967 par Israël lors de la guerre israélo-arabe et annexé en 1981.
En Grande-Bretagne, les députés britanniques ont rejeté mercredi toutes les options sur le Brexit qu'ils avaient eux-mêmes proposées. De son côté, la première ministre Theresa May a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit, cédant aux appels de nombreux députés britanniques, y compris dans son propre camp, qui réclamait son départ. Le point avec Raissa Girondin.
Il y a le désir d'une nouvelle approche, d'un nouveau leadership pour la prochaine phase des négociations du Brexit, a déclaré hier la dirigeante britannique. En s'engageant ainsi à démissionner, Theresa May joue sa dernière carte pour tenter de faire adopter le traité de retrait de l'Union européenne qu'elle a négocié avec Bruxelles. Cet accord a déjà été rejeté à deux reprises par les députés britanniques en janvier et à la mi-mars, poussant la dirigeante à demander un report de la date du Brexit fixée désormais au 12 avril au plus tôt. « Je suis prête à quitter ce poste plus tôt que prévu afin de faire ce qui est bon pour notre pays et notre parti », a ajouté Theresa May devant les députés conservateurs. Elle a également appelé une nouvelle fois les Tories à soutenir l'accord de respecter la décision du peuple britannique de quitter l'Union européenne prise lors du référendum du 23 juin 2016.
Le président Donald Trump a demandé à la Russie de partir du Venezuela après la récente arrivée de personnel et matériel militaire russe dans ce pays. Toutes les options sont sur la table, a encore dit à plusieurs reprises M. Trump, en réponse à une question la question de savoir donc si les États-Unis étaient prêts à envoyer sur place des forces pour faire partir les Russes.
Et puis Boeing a lancé hier une vaste offensive pour regagner la confiance du grand public et obtenir des régulateurs l'autorisation de faire voler à nouveau les 737 MAX cloués au sol depuis la mi-mars. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La filiale burkinabé du groupe Maroc Télécom Onatel a décroché la licence pour l'exploitation de la 4G pour une durée de 15 ans. La tribune indique que pour cette opération, Onatel a déboursé 80 milliards de francs CFA obtenus grâce à un prêt de 40 milliards de francs CFA auprès d'une filiale de BCP. La direction d'Onatel assure que le service 4G est déjà disponible et couvre 35 localités, dont la capitale Ouagadougou. Les autres régions seront couvertes d'ici la fin de l'année. L'attribution de cette licence à Onatel intervient moins de 2 mois après celle attribuée par les autorités burkinabées à la filiale locale du groupe français Orange pour le même montant. Le Mozambique pourrait bénéficier d'un prêt d'urgence compris entre 60 et 120 millions de dollars du FMI pour faire face aux dégâts causés par le cyclone Idai. L'agence Ecofin rapporte que ce financement sera accordé via une facilité de crédit rapide, un mécanisme mis en place par le FMI pour faire face aux situations d'urgence dans les pays membres. D'après l'ONU, près de 337 millions de dollars sont nécessaires pour aider le Mozambique à faire face à la nouvelle crise. Terminons avec le Kenya où les petites exploitations de production de café bénéficieront d'un fonds renouvelable d'une valeur de 30 millions de dollars pour redynamiser le secteur. Ecofin écrit que cette facilité financière devrait permettre aux acteurs de financer leur production et de réduire leurs pertes post-récolte.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Pour commencer, l'équipe nationale de football du Gabon qui a été dissoute.
Oui, l'annonce a été faite hier par le ministre des Sports Alain-Claude Bilibizé. Le sélectionneur des Panthères et son staff ont été virés après l'élimination du Gabon à Bujumbura. Le gouvernement a aussi annoncé une série de réformes visant à relever le niveau actuel du football national. Et ces réformes passent par la mise à plat de l'équipe des Panthères désormais dissoute. Écoutons le ministre des Sports Alain-Claude Bilibizé.
On a pensé qu'il fallait aujourd'hui même confier à la FEGAFOOT la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 60 jours maximum. Deuxièmement, mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Aussi, l'équipe nationale des Panthères a, dans sa formation actuelle, est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, un manque de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières à gagner en oubliant la nation et l'esprit d'équipe.
Alain-Claude Bilibizé, ministre gabonais des Sports, au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Zé.
On connaît les oppositions du dernier tour des éliminatoires de la CAN des Espoirs.
Oui, on aura des chocs comme Mali, République démocratique du Congo ou encore Côte d'Ivoire-Guinée, Ghana, Algérie, Cameroun, Tunisie. À suivre aussi Zambie-Congo et Soudan-Nigeria. Les 7 vainqueurs se qualifieront pour la CAN des moins de 23 ans qui aura lieu en Égypte en novembre prochain. Les pharaons Espoirs sont d'office qualifiés en tant que hôtes de la compétition. Autre enjeu de cette CAN des Espoirs, les 3 premiers se qualifieront pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Tennis Alep a une victoire de la place de numéro 1 mondial.
Et oui, la Roumaine n'a plus besoin que d'une victoire à Miami pour redevenir numéro 1 mondial du tennis féminin. Après son succès hier contre la chinoise Wang Qiang 6-4-7-5, Simona Alep a décroché son billet pour le dernier carré du tournoi floridien, comme en 2015 après 1h38 minutes d'effort. En cas de qualification pour la finale, Alep, 27 ans, retrouvera donc la place de numéro 1 mondial qu'elle a perdue fin janvier et qu'elle a occupée au total pendant 64 semaines. Cette première place au classement WTA était revenue à la japonaise Naomi Osaka après son sacre à l'Open d'Australie, mais Osaka a été éliminée dès le troisième tour de ce tournoi de Miami. On reste ici aux États-Unis pour parler de basketball avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Portland et Chicago 118 à 98, Golden State et Memphis 118 à 103, Oklahoma City et Indiana 107 à 99, Washington et Phoenix 124 à 121.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À une semaine du premier voyage du nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, aux États-Unis, le député Martin Kabuya de la coalition FCC, allié aux dirigeants congolais, de passage ici dans nos studios à Washington, a parlé des préparatifs de cette visite. Il a aussi évoqué la brûlante question des corruptions électorales et des sanctions américaines contre des dirigeants de la CENI. Eddie Isango a reçu dans nos studios, Martin Kabuya, un extrait de cette interview.
Nous attendons que ce qui avance, ce qui acquise puisse amener le problème. C'est vrai que ça s'est passé de la manière que ça s'était passé. Le procureur général près de la Cour de cassation avait tiré la sonnette d'alarme à son temps pour que les élections, que ce soit celles des sénateurs ou de gouverneurs de province, ne soient pas organisées le temps que son office puisse mener les investigations. Bon, il n'a pas été entendu ou il n'a pas été écouté par les pouvoirs organisateurs des élections. Mais aujourd'hui, on s'est rendu tous à l'évidence que la démarche du procureur général près de la Cour de cassation était opportune et qu'il fallait lui donner le temps de mener des investigations à gauche à droite pour mettre hors d'état de nuire et les corrupteurs et les corrompus. Mais hélas, tu sais, au pays, c'est souvent après coup qu'on se rend à l'évidence qu'on a mal fait. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'avis que ça a été très mal organisé parce qu'il y a eu des pratiques répréhensibles à ciel ouvert. Et ces pratiques sont à condamner. La corruption ne peut pas, de aucune manière, construire une société. La justice devra faire son travail.
Le président Félix Tshisekedi fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et c'est pour ça que les États-Unis les soutiennent dans cette politique. Ne devrait-il pas sanctionner ?
Depuis qu'il est arrivé il y a 2 mois, il a fait des gestes extrêmement positifs. Ce qui fait qu'il est attendu ici, à Washington D.C., pour être reçu par le président Trump le mercredi, juste pour l'encourager d'aller de l'avant, qu'il ne puisse pas avoir peur. Il a avec lui le soutien de son peuple, avec le peuple Bétou.
Vous-même, vous êtes député, vous étiez parmi ceux qui ont voté. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu effectivement corruption ou c'est juste des suppositions ?
La crise au pays ne date pas d'hier.
Vous avez des racines dans l'UDPS, mais aujourd'hui vous faites partie du FCC et ça pose un problème. Depuis le 24 janvier, il n'y a pas encore un gouvernement. On dit que le nom du formateur du gouvernement a été remis, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on peut nommer le formateur, mais il ne mettra pas le gouvernement en place tant que nous n'aurons pas les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Mais je me dis, ma foi, la semaine prochaine, nous devrons mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu déjà quelques bribes d'informations comme quoi des consultations sont en cours pour savoir qui va présider aux destinées de l'Assemblée nationale, qui va faire quoi.
Consultations, mais aussi tiraillement, les FCC continuent à clamer sa majorité, dont vous faites partie. Les FCC tient à ce qu'on installe les sénateurs, mais l'UDPS, les cache, n'est pas de cet avis.
L'UDPS, l'UNC et les autres partenaires du FCC, nous formons tous la coalition de gestion, ce qui peut, à mon sens, être opposition aujourd'hui, qui est en train de se lazarder, c'est dans la moucaille.
C'était le député Martin Kabuya de la coalition FCC dans nos studios ici à Washington.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Dans l'autre Congo, le Congo-Brazzaville, les populations attendent depuis 6 mois la mise en place de la nouvelle haute autorité de lutte contre la corruption après la dissolution de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'Observatoire national anticorruption. La corruption est devenue une vraie gangrène dans ce pays, nous dit notre correspondant Arsène Séverin.
C'est depuis septembre 2018 que les Congolais attendent la haute autorité de lutte contre la corruption, le nouvel organe qui va traquer les corrupteurs et les corrompus. Selon la nouvelle loi, la haute autorité de lutte contre la corruption est dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de saisine à la justice. et sera dirigé par une personnalité indépendante. Analyse des fortunes, Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, une ONG locale.
J'ai pas les moyens d'expliquer ce retard, mais on peut imaginer que est-ce que les gens sont prêts à aller déjà vers cet outil de lutte contre la corruption qui va finalement leur échapper. Les gens continuent à réfléchir de comment on peut quand même conserver la main sur cet outil. Les gens prendront le temps d'évaluer le risque.
Pour l'économiste Augustin Benazo, la corruption fait du mal à l'économie nationale.
L'effectivité de la défense au Congo, elle n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays.
L'opposition ne croit pas à la volonté du gouvernement d'aller en attaque contre la corruption. Elle estime que les dignitaires du pouvoir devraient être eux-mêmes la cible de la haute autorité de lutte contre la corruption. Professeur Charles Zachary Boao, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise.
Nous n'y croyons aucunement. La preuve, la Commission nationale de lutte contre la corruption s'est mise debout avec un certain nombre de dossiers rendus publics. Au terme de ces dénonciations du système lui-même, cette commission a été dissoute au profit d'une hypothétique haute autorité en la matière et le pouvoir actuel. Dans les grands tenants sont impliqués dans tous ces dossiers, ne pourra jamais être jugé parti. Il n'y a rien de sérieux.
L'ancien ministre Alain Akwala, qui est par ailleurs membre du PCT, le parti présidentiel, affirme qu'il n'est plus question de majorité ou d'opposition, mais d'éradiquer une gangrène qui ronge le pays depuis bien longtemps.
C'est difficile de faire la chasse à tout le monde. Nous savons tous dans quel système nous avons baigné. Et cette culture de la corruption est liée au fait que, depuis toujours, le Congolais associe le fait d'acquérir une espèce de progression économique par un poste dans l'administration, un poste obtenu grâce à la politique. Nous n'avons pas au Congo des réussites liées au fait que nous avons des grands capitaines d'industrie. On n'est pas là à se jeter la pierre sur opposition, majorité. C'est là que nous devons être capables de faire preuve, si vous voulez, de transcendance politique. Parce que cette culture ne date pas d'il y a maintenant. Donc, il va falloir extirper ce mal.
Après l'adoption au Parlement de la nouvelle loi sur la corruption, tous les acteurs attendent maintenant sa promulgation par le président de la République. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La plateforme syndicale dynamique unitaire du Gabon est très inquiète de la situation sociopolitique du pays. Cette coalition des syndicats, des agents de l'État et des acteurs de la société civile émet des réserves sur la santé d'Ali Bongo Ondimba et remet en cause le plan gouvernemental de réduction des effectifs de la fonction publique. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La Confédération syndicale gabonaise, dénommée Dynamique Unitaire, fait son diagnostic de la situation sociopolitique du pays. Pour Jean-Rémy Yama, coordonnateur de cette plateforme syndicale, les voyants sont au rouge et dénoncent le projet de réduction des effectifs de la fonction publique envisagé par le gouvernement. Jean-Rémy Yama.
La Confédération syndicale Dynamique Unitaire dit non. Non et non à la réduction de 10% des effectifs de la fonction publique. Le cas échéant, les actions d'envergure seront déclenchées sur le terrain immédiatement.
Dans son exposé de motifs justifiant la levée de bouclier des partenaires sociaux, Dynamique Unitaire évoque le retour au pays du chef de l'État gabonais avec des réserves sur sa santé, Jean-Rémy Yama.
Même en considérant que les images du 23 mars 2019 seraient vraies, il est clairement établi qu'Ali Bongo Ondimba est sérieusement diminué, ne dispose pas de toutes ses capacités cognitives et donc n'est plus capable d'assurer les charges inhérentes à la fonction de président de la République.
Mais en réponse à tous ces débats qualifiés d'ubuesques par le camp présidentiel, le Parti démocratique gabonais au pouvoir invite ses adversaires politiques à rompre avec les débats vides de contenu constructif et positif pour laisser place à des articulations de propositions favorisant le vivre ensemble gabonais. Estelle Flore Agangou, porte-parole du PDG.
Comme le distingué camarade président l'a dit lui-même, je cite, « C'est avec une volonté et une énergie décuplée que je poursuis ma mission au service de notre pays. Une nouvelle étape du septennat s'ouvre. » Fin de citation. Le temps est venu de laisser le président de la République, son Excellence, Ali Bongo Ondimba et le gouvernement assurer la réalisation des aspirations du peuple gabonais, consolider davantage l'unité nationale et accélérer la transformation du Gabon. Le PDG appelle à cet effet les compatriotes à la vigilance, à la prudence et à la prévenance face aux formules politiciennes creuses, à la langue de bois.
Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un millier de cas de méningite a été recensé depuis le début de l'année au Burkina Faso. 55 personnes sont déjà décédées et selon les services de santé, les régions du sud-ouest et surtout de l'est sont les plus touchées. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Jusqu'à maintenant, les services de santé burkinabè ont recensé au moins un millier de cas de méningite. Deux des 13 régions du pays sont principalement concernées.
On a un millier de cas de méningite qu'on a pu recenser un peu partout au Burkina.
Docteur Landaogo Wilfried Ouedraogo, directeur de la protection de la santé de la population.
Ce millier de cas-là se répartit dans les districts sanitaires qui sont aussi subdivisés en zones de surveillance afin de pouvoir permettre une meilleure surveillance et des actions, j'allais dire, un peu ponctuelles en fonction des situations. Et qu'aujourd'hui, la surveillance nous montre qu'il y a deux régions qui concentrent le maximum de cas, la région du sud-ouest et la région de l'est. Et dans ces régions, il y a des districts particuliers qui ont des cas élevés, en particulier le district de Diapaga, mais également au niveau du sud-ouest, le district de Gawa, de Dano et de Bati. Actuellement, à Diapaga, c'est là que notre concentration est un peu cristallisée du fait qu'il y a une zone de surveillance qui est en épidémie.
Tout le pays n'est pas touché par l'épidémie, rassurent les spécialistes de la santé. Et c'est surtout à Diapaga, dans l'Est précisément, que des zones ont été déclarées épidémiques. Docteur Isiaka Yameogo, chef de service de la surveillance épidémiologique à la direction de la santé de la population.
C'est au niveau de la région de l'Est surtout, au niveau du district santé de Diapaga, où on a eu des zones de surveillance qui sont en épidémie. En dehors de la région de l'Est, nous n'avons pas connu une situation d'épidémie dans les autres régions. Et au niveau de la région du sud-ouest, nous avons pratiquement les 4 districts de la région qui ont connu des situations d'alerte, mais pas d'épidémie.
Les services sanitaires ont mis en place un plan de riposte.
Nous avons travaillé à faire en sorte que les agents de santé soient renforcés en termes de capacité de diagnostic et de prise en charge.
Docteur Landaogo Wilfried Ouedraogo, directeur de la protection de la santé de la population.
Les médicaments qui ont été prépositionnés pour la prise en charge des cas ont été également renforcés pour faire en sorte que les cas qui vont se présenter aux centres soient pris en charge gratuitement. Les populations étaient davantage sensibilisées sur la question, les mesures de prévention, mais également qu'est-ce qu'il faut faire quand on présente une situation avec un tableau de méningite.
Dans la région du sud-ouest, le germe en cause n'appelle pas tout de suite une vaccination, mais c'est surtout une prise en charge renforcée et précoce, selon les services sanitaires. Et ces services annoncent dès demain le début d'une campagne de vaccination réactive dans au moins 3 zones de Diapaga. Au moins 70% de la population sera vaccinée. La maladie a déjà fait 55 morts dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, nous parlerons du Mali. Après le massacre samedi dernier de plus de 160 personnes, toutes de la communauté Peul, dans le village d'Ogossagou, le gouvernement malien a remplacé les principaux chefs de l'armée et dissous la milice d'Ogon, Danane Ambassagou, accusée d'avoir mené cette attaque. Mais le responsable de cette milice dément toute implication dans les tueries. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement? Ce drame était-il évitable? Quelle est la solution à privilégier pour apaiser la situation dans le centre du Mali? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et Onde Courte, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.